L'objectif de la matinée, donc dans un premier temps, à travers ma présentation, expliquer à l'aide d'éléments de psychologie les facteurs liés à la mise en activité de l'élève qui améliorent efficacement l'apprentissage. Il ne suffit pas simplement de dire que l'élève doit être actif, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière. Et quand il est actif, ce n'est pas parce qu'il est actif que ça veut dire qu'il va apprendre ou que son apprentissage va être efficace. Donc concrètement, quels sont les facteurs qui vont jouer pour avoir un apprentissage efficace. Ensuite, on va essayer de relier ces facteurs avec les retours d'expérience de la matinée, et enfin, on consacrera un petit moment à identifier les conditions nécessaires pour la mise en place dans chacune de vos pratiques. Donc, le quiz est le suivant. La recherche en sciences cognitives a identifié 4 facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité dans l'apprentissage. Quels sont ces facteurs ? Une minute trente. Donc là, on voit que les réponses qui ont été les plus retenues, c'est dans l'ordre l'attention. Ensuite, on a l'engagement actif, on a la consolidation des acquis, et après, on a le D qui serait la capacité de mémorisation, et les autres après qui sont un peu à égalité. Alors, quelle est la réponse ? Vous avez presque tout bon. C'est, dans un premier temps, l'attention, le retour d'information, l'engagement actif et la consolidation des acquis. Qui sont les plus utiles pour la facilité de l'apprentissage, la facilité et la vitesse d'apprentissage. La capacité de mémorisation et la créativité, c'est des facultés qui permettent l'approfondissement des connaissances, mais qui peuvent être des variables indépendantes selon la stratégie d'apprentissage de l'élève. Alors, premier élément de réponse, pourquoi rendre les élèves actifs dans leur apprentissage ? Pour maintenir leur attention. L'attention, c'est ce qu'on demande en premier chez un élève. Typiquement, quand l'élève doit suivre un cours en amphi, on considère que son rôle premier, c'est d'être attentif. Mais maintenant, la question, c'est de savoir comment fonctionne l'attention chez l'élève. Alors, les sciences cognitives ont mis au point un système, ont mis au point donc un modèle, à travers celui de Michael Posner, qui décompose l'attention en 3 systèmes. Le système d'alerte, c'est-à-dire le niveau de vigilance tout au long de la journée, l'orientation et le contrôle exécutif. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de retenir par rapport à ce système attentionnel ? Le fait que, comme vous le savez bien, quand vous avez des élèves dans votre cours, en fonction du moment de la journée, ça va être plus ou moins facile de maintenir leur niveau de vigilance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alerte tonique. Donc, c'est le niveau d'éveil qui va fluctuer tout au long de la journée. En général, dans un amphi, on va avoir 2 moments qui vont être les plus actifs en termes de vigilance. C'est le début et c'est la fin. Et entre les deux, il y a une baisse rapide de la rétention de l'attention, des informations par rapport à l'attention. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on arrive à aménager des pauses cognitives ou des activités entre les périodes de chute, on peut réactiver par des signaux extérieurs l'attention de l'élève. Deuxième question que je vais lancer. Sur la courbe de l'attention, à votre avis, au bout de combien de temps a-t-on perdu la moitié de l'auditoire ? La réponse majoritaire, c'est 20 minutes. Effectivement, la durée moyenne de l'attention maximale chez un élève, c'est 20 minutes avant que la courbe d'attention ne baisse. Deuxième élément, alors, donc, deuxième et troisième système du système d'attention, l'orientation, c'est la capacité à focaliser l'attention de l'élève sur un point et de sélectionner l'information. On a deux phénomènes qui sont intéressants. La cécité inattentionnelle, c'est le fait, par exemple, que l'élève puisse complètement passer à côté de certains détails s'il n'arrive pas à sélectionner l'information pertinente. Et la double tâche. Si, en général, quand on dit qu'on est multitâche, c'est un mythe. En général, on n'arrive à faire qu'une seule chose à la fois. Et si on demande, par exemple, à l'élève une tâche trop complexe, ou que, par exemple, il regarde Facebook en même temps qu'il écoute votre cours, eh bien, il ne pourra pas faire les deux de manière optimale. La conséquence, c'est quoi? C'est que, comme on l'a vu, au niveau de l'attention, l'idéal, c'est d'aménager donc des pauses cognitives tous les 20 à 50 minutes, de rythmer le cours d'activités qui tournent autour de points essentiels et de ne pas surcharger son support de cours avec des informations superflues. Les pauses cognitives, ça peut être une minute où on leur passe un film, par exemple, où on interrompt le cours, on pose une question et où on les fait réfléchir sur une question pour restructurer le point qu'on vient d'évoquer. Deuxième élément, donc, la notion d'engagement actif, qui est peut-être la notion la plus centrale pour ce qui nous intéresse. Alors, c'est une notion qui, en fait, a été explorée maintenant depuis un certain temps par la littérature et qui met en jeu deux choses. Des dimensions psychologiques à travers la motivation de l'élève et une dimension cognitive. Alors sur la dimension de la motivation, on peut retenir le système de dynamique motivationnelle de Roland Viau, qui est intéressant puisqu'il montre comment l'engagement cognitif dans une activité d'apprentissage va être déterminé par trois choses, c'est-à-dire trois questions que l'étudiant va se poser. D'abord, la perception de la valeur. Est-ce que cette activité, elle est intéressante pour moi? Intéressante du point de vue intellectuel, intéressante pour mon parcours, intéressante pour la validation de mon parcours de formation. Est-ce que je suis capable de la faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop difficile pour moi ou trop facile? Et enfin, est-ce que j'ai une marge de manœuvre par rapport à cette activité? C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'autonomie? Est-ce que j'ai de la liberté par rapport à l'activité? Sur le plan cognitif maintenant, troisième question, s'intéressant à l'alternance entre période d'études S et période de test T, Rödiger, qui est un psychologue cognitiviste, a tenté plusieurs alternances pour déterminer la meilleure combinaison. La meilleure combinaison entre les périodes d'études et les périodes de test. À votre avis, entre ces trois possibilités, laquelle est la plus efficace? Vous avez la réponse A, 4 périodes d'études alternées avec 4 périodes de test. Réponse B, 6 périodes d'études et 2 périodes de test. Et enfin, que des périodes d'études. Donc, 47% pensent que c'est la réponse A. 47% la réponse B et 5% la réponse C. Donc on hésite entre la plus grande alternance entre les phases de test et les phases d'études et plus de phases d'études avec des phases de test. Eh bien la réponse était la réponse A. L'expérience a montré que après 48 heures, ce qui était le plus efficace, c'était d'alterner 4 périodes de test avec 4 périodes d'études. Ce qui conduit à deux conclusions. D'abord, un élément important de l'engagement cognitif, c'est les alternances régulières entre phases d'études et de tests sont extrêmement importantes. Ensuite, ce qu'il est apparu aussi dans cette étude, c'est que les élèves n'avaient pas forcément conscience d'avoir fait une meilleure performance. Et donc, ce que met aussi en avant Rödiger, c'est l'importance pour les élèves d'être renseignés sur leur propre capacité à apprendre, sur la métacognition. Enfin, il ajoute que ce qui est important, c'est que les situations et les activités pour les élèves représentent un certain défi, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui, en quelque sorte, les met, qui représente un enjeu, mais un enjeu qui soit à leur portée. Troisième élément, les retours d'information. Ce que nous apprennent les sciences cognitives, c'est qu'en fait, l'apprentissage chez l'élève, et l'apprentissage de manière générale, fonctionne un petit peu comme un algorithme d'apprentissage itératif, qui va à chaque fois lancer des prédictions, va tester ses propres prédictions, et en fonction des signaux d'erreur que va lui envoyer le cerveau, il va soit les garder si elles sont conformes, soit les corriger si elles diffèrent. Donc, de ce point de vue-là, il y a deux situations qui sont particulièrement importantes. C'est la correction explicite de l'enseignant, donc le feedback de l'enseignant, ou l'effet de surprise. Quand on met l'élève en face d'une erreur à laquelle il ne s'attend pas, il va du coup devoir corriger son apprentissage. Enfin, dernier pilier, consolider les acquis. Donc au début de tout nouvel apprentissage, l'élève pioche dans la somme de ses connaissances antérieures. Donc ça, c'est l'importance des prérequis. Soit il a déjà les prérequis et l'apprentissage va être facilité, il va pouvoir piocher dans sa mémoire à long terme et il gagnera beaucoup plus de temps. Si par contre il n'a pas les prérequis, alors là, il sera obligé de faire plus d'efforts pour traiter en même temps l'explicitation des nouvelles données et les faire passer à un plan plus implicite. Donc si on résume, les facteurs qui font que la mise en activité d'un élève est efficace. Donc il faut que ce soit des activités qui focalisent son attention, qui l'engagent cognitivement et psychologiquement, qui surtout lui livrent des retours fréquents sur ses connaissances, et ensuite qui facilite le transfert à d'autres contextes. On ne va pas avoir une façon d'impliquer l'élève, on va en avoir plusieurs, et ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend d'abord de vos conceptions de l'enseignement, et puis après ça va dépendre de l'objectif que vous poursuivez. Par exemple, si vous êtes du côté plutôt de la transmission des contenus, vous aurez peut-être tendance à plus... avoir recours à des activités de validation des connaissances, si en tout cas vos objectifs se rangent là-dedans. Si par contre vous voulez développer l'esprit critique chez les élèves, alors vous aurez peut-être intérêt à utiliser des techniques d'animation de groupe pour avoir un niveau, je dirais, de confrontation encore plus élevé, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, qui va confronter les représentations des élèves avec celui de ses camarades. Ou alors les méthodes actives qu'on va définir dans la dernière question, et après on a terminé. Donc on définit les méthodes actives par le fait qu'elles simulent des situations réelles ou complexes où l'élève devra apprendre en faisant selon un ordre inductif. Parmi ces activités, lesquelles selon vous sont des méthodes actives? Donc là, on a quelque chose de plus partagé, avec 45% de réponses sur l'investigation scientifique, 23% de réponses sur les travaux dirigés, 27% sur le cours dialogué et 5% sur le devoir maison. Alors, la réponse, c'est l'investigation scientifique. Parce que ce qui caractérise les pédagogies actives, c'est vraiment la mise en situation réelle ou complexe. Dans le cours dialogué, ce qui est surtout validé, c'est la validation des connaissances. Dans les travaux dirigés, on peut être en situation complexe, mais c'est pas forcément obligé. On peut aussi avoir des TD qui sont calculatoires, par exemple. Et le devoir maison, ça peut être aussi une série d'exercices. Faire que vous êtes sur de la pédagogie active, c'est que vous passez de l'activité à tout le cours qui va tourner autour de l'investigation scientifique. Donc par exemple, il y aura plusieurs étapes. Si vous voulez entraîner les élèves à faire de l'investigation scientifique, vous allez, c'est comme pour le projet, vous allez avoir plusieurs phases. Donc ça peut prendre un cours entier. Alors que par exemple, dans les autres cas, ça va être uniquement un TD ou un devoir maison. Donc simplement quelques références bibliographiques, je vous transmettrai la présentation. Deux choses que je vous conseille si vous vous intéressez au sujet, les conférences de Stanislas Dehaene sur lesquelles je me suis basé pour les fondements cognitifs de l'apprentissage en milieu scolaire, qui sont disponibles sur le site du Collège de France, et aussi sur le thème plus spécifiquement de l'interactivité, conférence de Denis Berthiaume. Et vous avez aussi d'autres exemples, on va passer au retour d'expérience, vous allez aussi avoir d'autres exemples d'activités, par exemple d'animation de groupe sur la pédagothèque. Je vous remercie.
Merci. Où tu dis en gros l'élève n'arrive pas à dégager ce qui est important de ce qu'il n'est pas. Est-ce que justement ça ne fait pas partie de l'apprentissage, de son appropriation de ce qui va être raconté en cours, de ce qui est raconté en cours, que d'arriver à dégager ce qui est important de ce qu'il n'est pas? Voire d'ailleurs, ce n'est pas forcément gravé dans le marbre ce qui est important, ce qui va être important pour lui, c'est aussi selon ce qu'il va faire, ce qu'il a à faire sur certains projets, il y a des choses qui vont être plus importantes pour lui et des choses qui vont être moins importantes pour d'autres élèves. Est-ce que justement, parce que c'est quand même souvent une demande des élèves, hein, qu'en gros, non seulement on leur donne le poli, mais qu'en plus on surligne les points les plus importants. Et ça me paraît justement être à l'inverse de les rendre actifs dans leur apprentissage que de faire ça.
En fait, tout est une question de dosage. C'est-à-dire que ce qui, en tout cas, c'est que l'effet maître, l'effet de l'enseignant qui pointe les éléments pour structurer, si tu veux, la pensée de l'élève, ça lui fait gagner un temps sur un facteur 3. Tu vois, et c'est une aide en fait. Mais selon l'objectif que tu vas poursuivre, tu peux très bien avoir un étayage qui est minimal et leur dire, voilà, l'objectif c'est que vous arriviez à, dans la complexité, à affronter la complexité, et voilà.